Le découragement pose problème dans tous les domaines de la vie, n'est-ce pas? On pense au joueur de sport qui a perdu sa motivation. J'ai vu l'équipe de rugby de l'Angleterre hier. On a été battu par les Pays de Galles. On a été découragé et on a vraiment... C'était horrible. Donc on pense à l'adolescent à l'école. Il a perdu sa motivation dans les études. Mais dès qu'il trouve sa motivation, il réussit tout de suite. Mais c'est la même chose dans la vie chrétienne. Nous, on est facilement découragés dans la vie chrétienne, n'est-ce pas? Nous savons que nous avons du travail à faire pour le Seigneur. Ce n'est pas qu'on ne sait pas ce qu'on devrait faire, mais c'est qu'on est fatigué. On est découragé. Je suggère que nous tous, on va éprouver ce genre de découragement paralysant à un moment donné dans notre vie. Si vous n'êtes pas découragé ce matin, gloire à Dieu, mais un jour, vous le serez. Alors écoutez bien. Comment combattre ce découragement? Nous allons tourner dans nos Bibles au livre de Agé, dans l'Ancien Testament, peut-être pas le premier endroit. On aurait pensé, c'est près de la fin, troisième livre, vers la fin de l'Ancien Testament, première partie de la Bible, le livre de Agé. Le livre de Agé, chapitre 2, et Dieu va nous donner la réponse. Dieu va motiver son peuple par ses promesses. Lisons à partir du verset 1 du chapitre 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alors prions ensemble pour l'aide de Dieu. Notre Père, nous te louons parce que tu es un Dieu qui nous parle dans ta parole, dans la Bible. Et nous venons à toi ce matin, nous venons à ton écoute pour entendre ta voix. Et nous te prions que tu puisses nous changer à travers ta parole, que tu puisses nous motiver dans notre découragement à continuer, à aller l'avant pour te servir, que tu puisses nous motiver par tes promesses glorieuses. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Alors, la première chose que nous voyons dans ce passage, c'est dans les versets 1 à 3, c'est un peuple découragé. Un peuple découragé. Alors, Agé se situe après l'exil. L'exil, c'est quand le peuple de Dieu a été déporté de son pays pendant 70 ans à cause de leur péché. Mais Dieu, maintenant, les a ramenés dans le pays. Ils n'avaient pas de roi, ils n'avaient pas de temple. Ils étaient un petit peuple dans le pays promis. Et dans le chapitre 1 d'Agé, si on avait le temps, on lirait ça également, nous voyons les mauvaises priorités du peuple. Le peuple était censé reconstruire le temple. Mais ce qu'ils préféraient faire, c'est prendre soin de leur maison de luxe, d'acheter quelques meubles en plus de Ikea au lieu de servir l'Éternel. Et Dieu les a mis à défi pour continuer le travail. Et ils ont obéi à la fin du chapitre 1, ils ont obéi, ils ont commencé le travail. Et dans le chapitre 2, verset 1, si on peut juste afficher, merci. Le 21e jour du 7e mois, la parole du Seigneur parvint par l'intermédiaire d'Agé, le prophète. Dieu s'adresse de nouveau à son peuple, à peu près 3 semaines après le recommencement du travail. On peut imaginer la scène, le peuple tout zélé pour travailler. Benjamin, l'Israélite, il dit à son épouse, mon cœur, je rentrerai tard ce soir. Tu vas où, mon chéri? Je vais au chantier du temple. Travaille bien, mon chéri, pour le Seigneur. Je sais qu'il y a eu l'exposition de Batibo il y a 2 semaines, et c'est partout en Belgique. On entend à la radio, à la télé, et on dit apparemment, vous me corrigez, que les Belges sont nés avec une brique dans le ventre. Ils sont passionnés par la construction. Et je crois que les Belges auraient bien aimé être là lors de la reconstruction du temple. Ils auraient été zélés pour la construction là. Mais 3 semaines après, il y a des gens qui commencent à se rendre compte que ce qu'ils sont en train de construire, c'est peu impressionnant, c'est minable comparé à ce qu'il y avait avant. Lisons à partir du verset 2. « Dis, je te prie. » À Zorobabel, parle à Zorobabel, le gouverneur de Juda. Parle à Josué, le souverain sacrificateur, c'est Dieu qui parle, et au reste du peuple. Et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Vous voyez, il y avait des gens âgés parmi le peuple qui connaissaient le temple avant sa destruction. Le premier temple, le temple de Salomon, le temple glorieux. Dans sa gloire première. Et Agé, dans le verset 3, pose la question, comment la voyez-vous maintenant? Cette nouvelle maison de Dieu qu'ils étaient en train de construire. Mais Agé connaît la réponse. Ne paraît-elle comme rien, rien à vos yeux? Les gens qui ont connu l'ancien temple pleuraient tellement ce nouveau temple était minable en comparaison. Je me souviens, lorsque j'étais à l'école, on avait un cours de technologie. Et j'ai bâti un petit bateau en bois. J'en étais très fier, tout petit. Et j'aimais bien. Mais imagine à ce moment-là, si quelqu'un de plus âgé vient me dire, « Mais tiens, Robbie, ce que tu fais là, c'est nul comparé à ce qu'ils ont fait dans le passé. C'est nul. Aïe, aïe. Ça fait mal. Mais ça ne motive pas. » Au travail, n'est-ce pas? Je vais baisser les bras à ce moment-là. Et c'est ce qui se passe ici parmi le peuple de Dieu. Les gens disent, mais ce nouveau temple, c'est rien à ce qu'il y avait avant. Et donc le découragement s'installe facilement parmi le peuple. Ils n'ont plus vraiment envie de travailler. Benjamin ne veut plus aller au chantier. Peut-être il va retourner à Ikea, où il va mettre plus de bois dans le feu. Mais nous, on peut facilement être découragés, n'est-ce pas? Je crois qu'il peut y avoir 3 signes de découragement en nous. Premier signe, peut-être on ne fait plus ce qu'on faisait avant pour le Seigneur. Peut-être dans le passé, on était courageux pour le Seigneur. On parlait autour de nous, de Jésus. Mais plus maintenant, on ne prend plus trop les risques pour Dieu maintenant. Ça, c'est dans le passé. Ou peut-être on a de la nostalgie. Je me souviens quand l'église d'Otigny faisait ceci et cela. Mais maintenant, il n'y a rien qui va. Ça peut être un signe de découragement dans notre vie. Deuxièmement, peut-être on se fait facilement des excuses. Peut-être on se dit, mais en fait, c'est le travail du pasteur pour aller rendre visite à un tel ou un tel qui n'a pas été à l'église depuis les semaines. C'est son travail à lui. C'est pas à moi. Ou peut-être c'est le travail des jeunes. Où est la relève? C'est le travail des jeunes à faire ça. On se fait vite des excuses. C'est pas mon don, ça. Je suis pas très doué pour ça. On se fait vite des excuses dans notre découragement. Ou peut-être troisième, on se passionne plus pour autre chose que pour le travail du Seigneur. Peut-être on se passionne plus pour notre famille même. C'est une bonne chose. Mais s'il y avait un choix entre la famille et travailler pour le Seigneur, on va choisir la famille ou notre confort. Peut-être on est découragé dans le travail du Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu va faire pour sortir son peuple, nous sortir de notre découragement? Ça, c'est la deuxième chose que nous allons voir. C'est dans le verset 4 et 5, si on peut remettre ça. C'est Dieu motive son peuple à l'action. Dieu motive son peuple à l'action. Nous voyons cela dans les ordres qu'il donne dans les versets 4 à 5. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, gouverneur de Juda. Fortifie-toi, Josué, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier. C'est la préparation. Le peuple doit se fortifier. Pour faire quoi? C'est à la fin du verset 4, là. Travailler. Travailler. Pour travailler, pour continuer le travail du temple. Le découragement n'est pas une excuse pour baisser les bras, mais Dieu appelle son peuple à continuer le travail. Et troisième exhortation dans le verset 5 à la fin, ne craignez pas. Il y aura de l'opposition au travail du Seigneur, mais Dieu dit ne craignez pas. Dieu dit alors fortifie-toi, travaillez, ne craignez pas. Et comme Dieu a appelé son peuple à revenir au travail, continuer le travail à l'époque d'Agé, il fait la même chose pour nous ici ce matin. Dieu nous appelle à continuer son œuvre. Mais nous ne sommes pas appelés à construire un temple matériel ou de nous soucier de ce qui se passe en Israël. Ça, c'est pas notre appel en tant que chrétien. Nous sommes appelés à travailler pour construire un temple spirituel, le corps de Christ, l'Église. Si vous pouvez venir avec moi à Éphésiens, dans le Nouveau Testament, j'aimerais bien vous montrer quel est notre travail pour le Seigneur. Éphésiens 4, verset 7, dans le Nouveau Testament. Ici, Paul parle de notre projet de construction dans l'Église. Dans le verset 7, il parle aux chrétiens, il parle de Jésus ressuscité qui donne les dons à l'Église. Verset 7, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Et il explique un peu plus loin dans le verset 11, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Paul est en train de dire, il y a des gens doués pour l'enseignement, il y a Gaston, René et d'autres qui vont apporter la parole. Mais c'est pour quel but? Verset 12, pour le perfectionnement des saints, ça c'est nous, rien à voir avec les vitraux, les saints c'est nous, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ouais, pourquoi est-ce qu'il y a une prédication chaque dimanche? C'est pour nous équiper pour notre travail dans la construction du temple spirituel, du corps de Christ. Vous voyez, on est tous dans le ministère si on est chrétien. On peut penser que c'est juste les anciens ou ceux à l'IBB qui sont dans le ministère, qui sont des serviteurs de Dieu, mais ce n'est pas vrai. Si on est chrétien, on est dans le ministère à temps plein pour Dieu. Et quel est notre ministère? C'est la construction de l'Église. Alors, nous avons parfois la tendance à penser à l'Église dimanche matin comme on peut aller au cinéma, peut-être. On y va avec nos amis, les gens qu'on aime bien, on regarde quelque chose, en avant, on entend de belles paroles, et puis on sort, et puis on continue la semaine, comme ça. Il y a quelqu'un qui fait tout le travail ici, et nous on reste assis. En fait, Paul est en train de dire que l'Église est un chantier. Un chantier. Et nous tous, nous devons apporter notre casque et les chaussures à bout renforcé le dimanche matin, pour le travail. Et qu'est-ce qui est le but du projet? Ça, c'est dans le verset 13 de Éphésiens là. Jusque nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, alors l'unité en Christ, et deuxièmement la maturité en Christ, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alors c'est ça notre but, on veut l'unité dans la foi et la maturité en Christ pour l'église d'Otigny ici. Et comment est-ce que cela se produira? Quels sont les matériaux de construction, si vous voulez? Alors, on n'a pas besoin d'aller à Batibo pour les acheter, ou à Bricot. C'est ici, dans le verset 15. C'est professer la vérité dans l'amour. Dire la vérité dans l'amour. Alors, ça ne veut pas dire aller à quelqu'un pour dire « Vous avez un grand nez, peut-être la vérité, mais je t'aime quand même. » Ça, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. La vérité ici, c'est l'évangile, la mort de Jésus-Christ à la croix. Lui qui subit le châtiment que nous méritions, afin que nous puissions être pardonnés, avoir la vie éternelle. Lui qui s'est ressuscité, lui qui reviendra un jour. C'est ça, la vérité. Et notre boulot à nous, c'est de dire cela avec amour aux autres chrétiens ici. Alors, notre tâche pour la construction du temple spirituel, c'est de dire les paroles de l'Évangile aux chrétiens et aux non-chrétiens. Ok, mais qu'est-ce que ça pourrait donner dans la pratique? C'est bien en théorie, mais qu'est-ce que ça pourrait donner dans la pratique? Alors, peut-être pour vous, on pourrait rendre visite à un chrétien qui est en difficulté. Peut-être qu'ils n'ont pas été à l'église pendant les semaines. On pourrait aller les voir, donner un coup de fil. Peut-être on pourrait ouvrir la Bible avec eux, partager un verset par rapport à l'espérance éternelle que nous partageons en Christ et prier ensemble. Ou peut-être pour vous, ça serait prendre du temps avec votre épouse pour lire la Bible ensemble à deux, prendre quelques versets, parcourir un livre de la Bible, matin après matin, prier ensemble. Ou peut-être ce serait d'avoir un moment d'étude biblique avec les enfants dans la maison. Pas quelque chose de trop lourd, 10-15 minutes, pour dire la vérité ensemble, dans l'amour. Ou peut-être ce serait fixer un rendez-vous avec quelqu'un d'autre dans l'église durant la semaine pour vous encourager mutuellement, lire un peu de la Bible. C'est comme ça que nous serons encouragés, grandis dans notre foi. Faire des groupes de maison une priorité, si on peut. C'est un moment fort pour la construction de l'église ou le groupe de dames. Après le culte, vous savez, l'église ne termine pas après les derniers chants et les annonces. Non, on continue à être église autour de la tasse de café. Et moi, je suis nul pour ça, mais ce serait bien de pouvoir parler de peut-être une chose qui nous a encouragés dans la prédication de la parole. Une chose qui nous a encouragés. Pourquoi pas on peut nous demander les uns les autres, qu'est-ce qui était une chose qui vous a boosté pour la semaine dans la parole de Dieu, qui vous a mis à défi? Pas 10 choses, une chose. Comme ça, on dit la vérité dans l'amour. Pourquoi pas inviter un ami à l'église à Pâques, un ami non chrétien, et les inviter à dîner à la maison après pour prolonger la discussion. Peut-être lorsque vous regardez dans votre agenda, vous voyez que vous ne passez pas énormément du temps avec des non-chrétiens. Peut-être serait bien de consacrer du temps à faire cela. Priez pour les occasions de oser parler de Jésus avec ceux qu'on connaît. Nous avons du travail à faire, n'est-ce pas, pour construire le temple spirituel. Et Dieu dit, fortifie-toi, travaillez, ne craignez pas. Mais peut-être vous êtes en train de vous dire, mais ok, il y a du travail à faire, mais moi je suis vraiment découragé là-dedans, et Dieu vient me dire, fortifie-toi, travaillez, ne craignez pas. Est-ce qu'il est une sorte d'esclavagiste sans pitié, juste il me dit de faire des choses comme ça? Non, non. Revenons à Agée, si vous avez vos Bibles, Agée 2, nous allons voir que Dieu motive son peuple par ses promesses glorieuses. Il évoque deux promesses en particulier. Et la première promesse, c'est sa présence avec eux dans le présent. Sa présence avec son peuple dans le présent. Ça, c'est dans les versets 4 et 5. Dieu dit, « Travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. » Dieu avait promis à son peuple d'être avec eux lors de l'Exode. Et lorsque Dieu fait une promesse, il la tient. Et Dieu fait la même chose avec nous. C'est la même promesse. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, peut-être vous vous souvenez de leur premier jour à l'école. Peut-être ils avaient peur. Ils ne voulaient pas y aller. Moi, j'avais peur, premier jour de l'école. Je ne voulais pas que mes parents me quittent à ce moment-là. Alors, mes parents ont dit, on sera avec toi. Ne t'inquiète pas. Waouh, ça booste, hein, de savoir qu'ils sont là avec nous. Mais nous avons l'Éternel des armées, le Dieu de tout l'univers, qui est avec nous pour nous équiper pour le travail du Seigneur. Et en préparant ce message cette semaine, je crois que j'ai tendance à vite banaliser le fait que Dieu est en nous. Je crois que si on savait que la semaine prochaine, pendant la semaine prochaine, Dieu lui-même serait en nous pour nous équiper pour le travail du Seigneur, on ferait des exploits pour Dieu, n'est-ce pas? Si on savait que Dieu allait être avec nous, oui, on ferait des exploits. Mais on oublie vite qu'il est avec nous. Nous, on se sent tellement seul dans la vie chrétienne, mais on ne l'est pas. Dieu est avec nous. On se sent tellement impuissant. Nous, on l'est. Mais l'Éternel Dieu des armées ne l'est pas. Dieu nous motive à parler de lui par la promesse de sa présence avec nous. Mais pour rebasculer sur le temps d'Agée, ok, Dieu sera avec le peuple, mais qu'en est-il de la gloire pitoyable du temple? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et ça, c'est sa deuxième promesse. C'est la gloire du temple à venir, versets 6 à 9. La gloire du temple à venir. Nous voyons ce que Dieu fera dans l'avenir, vous voyez ça dans le verset 6. Il dit, encore un peu de temps, attendez. Je ferai quelque chose. Et qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il fera? Il ébranlera les cieux et la terre, verset 6, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Dieu dit, attendez encore un peu, et ce temple sera encore plus glorieux qu'avant. Mais il fallait bel et bien attendre plus de 500 ans sont écoulés avant que Dieu lui-même, Jésus-Christ, entre dans le temple. Et Jésus parle d'un temple plus glorieux. Il parle de son corps. Il dit que son corps, le temple, sera détruit, mais il le relèvera après 3 jours. Et c'est lorsque ce temple, lorsque Jésus est mort à la croix, que la paix avec Dieu, dans le verset 9, est possible. Et c'est à ce moment-là que Dieu ébranle la terre également. Écoutez ce que Matthieu nous raconte par rapport à la mort de Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. Lorsque Jésus meurt à la croix, Dieu ébranle la terre. Dans cette semaine, c'était l'anniversaire de la tragédie au Japon, il y a 2 ans, le tsunami, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, c'était un désastre terrible, provoqué par un tremblement de terre, le plus grand tremblement de terre jamais signalé. Et les milliers et des milliers de gens sont morts à cause de ce tremblement de terre. Mais Dieu promet quelque chose encore plus terrible. Il dit, un jour, je tremblerai, j'ébranlerai la terre. Il l'a fait une fois à Sinaï, lorsqu'il a donné la loi, la montagne ébranlée. Il l'a fait à la croix de Jésus, lorsque Jésus est mort pour nous donner l'accès à Dieu. Il fera une fois encore. Et dans Hébreux 12, nous voyons que c'est au jugement dernier. Dieu ébranlera le ciel et la terre. Voyez, si vous êtes en visite parmi nous ce matin, ou si vous n'êtes pas encore chrétien, ce que Dieu demande de vous, ce n'est pas juste de retrousser les manches un peu plus et vous mettre au travail du Seigneur, non. Il vous demande de vous confier en Jésus-Christ et sa mort à la croix, avant que vienne le jugement dernier. Il n'y a pas d'autre option. Mais si nous sommes chrétiens, à ce moment-là, nous serons dans la nouvelle création, dans la gloire, à tout jamais, à tout jamais. Écoutez ce que Jean voit dans l'Apocalypse, ce que ça donnera, la vie éternelle. Je ne vis point de temple dans la ville, pas de temple matériel, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La vie n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Nous, le peuple de Dieu, avec Dieu, pour tout jamais dans la gloire inimaginable. Alors Dieu a motivé son peuple à l'époque d'Agée par 2 promesses glorieuses, sa présence dans le présent et la gloire à venir. Et ces promesses valent encore pour nous, aujourd'hui, ce matin, à Otini. Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde, et nous serons avec lui dans la gloire à tout jamais. Pensez à là où vous serez dans 10 000 ans, autour du trône de l'agneau, en train de louer à tout jamais dans la gloire. Nous sommes facilement découragés dans le travail pour le Seigneur. Beaucoup de choses peuvent nous décourager. La fatigue, l'épuisement émotionnel, l'opposition, la peur du rejet de l'autre. Lorsque nous nous comparons à d'autres, on voit qu'ils sont plus doués que nous. On se décourage. Mais Dieu, ce matin, nous motive à continuer le travail par ses promesses. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. On sera avec lui dans la gloire à tout jamais. Rappelons-nous ses promesses glorieuses. Rappelons-nous les uns les autres ses promesses glorieuses. Le découragement est paralysant dans la vie chrétienne. Mais en Christ et en les promesses de Dieu, nous avons le remède. Ne cédons pas au découragement. Persévérons dans la construction de l'Église, dans l'évangélisation, dans l'encouragement des autres chrétiens. Cela pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Notre Père, c'est vrai, nous sommes vite découragés dans la vie chrétienne, dans le travail de parler de Jésus autour de nous. Et nous nous repentons de cela. Mais nous te louons parce que tu vois notre découragement. Et tu nous motives à l'action par tes promesses. Tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Et nous serons avec toi dans la gloire à tout jamais, dans la nouvelle création. Quelle promesse glorieuse. Et nous te prions que tu puisses nous motiver à l'action cette semaine, que nous puissions travailler avec zèle pour toi, et cela en vue de la construction du corps de Christ, ici à Otigny, et cela pour ta gloire. Amen.